Décryptualité, semaine 36. Salut Manu.
Salut Luc, bienvenue, bon retour de vacances.
Et oui, on n'a pas commencé tout début septembre, on s'est donné une petite semaine. Mais voilà, on est de retour et on s'était dit qu'on allait parler un petit peu de la revue de presse et après faire une petite rétrospective de ce qui nous a marqué cet été.
Un pot pourri.
Donc, revue de presse de la semaine, de la rentrée. Le monde informatique, les grands acteurs de l'IT ont l'open source intéressé. Un article de Matt Hazet.
Et je te dirais qu'il y en a un autre sur Siècle Digital, le cloud. Microsoft fait un pas vers l'open source, pas vers le logiciel libre. Et voilà. Je trouve que c'est intéressant parce que, oui, les journalistes se rendent compte que les entreprises sont intéressées et elles font de l'open source, pas du libre. C'est pas la philosophie qui va les pousser à contribuer.
C'est pas la liberté de l'utilisateur qui les intéresse.
Non, clairement. Et donc, voilà, c'est bien de le mettre en avant.
Numérama, la France va ouvrir le code source de France Connect qui sert à se connecter aux services publics. Un article de Julien Lausson.
Donc, plutôt bien, une bonne nouvelle, c'est de l'innovation de l'État. Tous les logiciels de l'État devraient être du logiciel libre, en tout cas, c'est mon opinion. Mais ce n'est pas le cas, donc là, ils font quand même un pas dans la bonne direction. Ça va avec beaucoup la politique d'open data que la France met pas mal
en
avant.
Oui, on peut imaginer plein de choses avec cette ouverture, notamment qu'il y ait des systèmes dits de SSO, ces systèmes qui se permettent de se connecter avec un seul compte sur plein de sites différents, ce que fait France Connect. Que soit France Connect permette de faire ça, je ne suis pas sûr qu'ils soient intéressés, mais ou potentiellement qu'un autre système de gens-là se mette en place et que les gens passent moins par des trucs de type Facebook ou Google, etc. et qu'on puisse avoir un système d'identification qui soit indépendant des GAFAM. Ouest France, les logiciels libres peuvent-ils concurrencer les GAFAM? Un article de la rédaction.
Donc qui met en avant le libre, les services qui vont autour, les services de Framasoft notamment. Donc plutôt sympa, et puis il rappelle que y a Jean Castex, un homme politique de premier plan en France.
Je ne connais pas.
Oui, voilà. Eh bien, qui parle du logiciel libre et qui le met en avant. Donc, c'est plutôt sympa. Il y a un petit peu de description de Frama. Donc, c'est plutôt pas mal.
Silicon Open Source, un puissant moteur pour l'économie européenne. Un article d'Ariane Becky.
Alors, une liste d'articles. Il y en a d'autres. Des articles que j'ai mis en secondaire. Et qui parlent effectivement de tout un rapport qui est sorti par l'Europe. Et qui met en avant l'impact économique du logiciel libre, de l'open source. Et donc ça a l'air d'être considérable. En gros, 1 milliard d'investissements dans le logiciel libre aurait comme impact entre 65 ou 95 milliards d'euros. Donc c'est considérable, c'est une démultiplication des investissements qui est plutôt intéressante. Et ils encouragent à le poursuivre et à augmenter encore plus, donc plutôt très positif.
Voilà, c'est quand même une belle revue de presse, hein, parce qu'il y a plein de trucs hyper positifs qui remontent sur le logiciel libre. Et ça fait plutôt plaisir de revenir dans ces circonstances. Ce dernier article, pour moi, est vraiment intéressant pour cette dimension économique, au sens macroéconomique, et pas juste de « est-ce qu'on va faire du bénéfice ?». Pour moi, elle est essentielle, cette réflexion-là, c'est bien qu'elle se mène.
On peut terminer pour faire la symétrie des revues de presse de l'année dernière. En juin, on parlait beaucoup d'Audacity. Je ne sais pas si tu te rappelles.
Oui, logiciel libre de traitement de son que j'utilise pour nettoyer le fichier et préparer la revue de presse, qui a été revendu à un éditeur.
Muse,
un éditeur russe. Et qui s'est empressé d'en faire une espèce de truc bâtard, toujours libre, mais avec des trucs de surveillance des utilisateurs, etc. Donc, open source, mais pas très libre.
Voilà, ils avaient même interdit l'usage du logiciel au moins de 13 ans. Donc, c'était un peu choquant. Et donc, finalement, en juillet, ils ont rétropédalé, en tout cas, c'est ce qu'ils ont officiellement annoncé. Donc, maintenant, les enfants ont le droit de l'utiliser à nouveau, et on semblerait qu'on peut désactiver la récolte de données. Et ils assurent que ces récoltes de données ne sont là que pour améliorer le logiciel, et qu'il n'y a pas d'autres usages et de buts cachés derrière ça.
En tout cas, c'est une belle illustration de pourquoi le libre, c'est important, et qu'un projet peut basculer finalement assez facilement.
Une mauvaise nouvelle en juillet?
Oui, très mauvaise nouvelle, qui est le décès de Philippe Aigrin.
Alors, c'est les biens communs, le fondateur de la Quadrature du Net.
Un des cofondateurs de la Quadrature du Net, effectivement. Un universitaire, un chercheur qui, en informatique, qui était pro-logiciel libre, qui s'était également beaucoup investi lors de la DAFSI, qui était la loi préalable à la loi Hadopi. On a commencé à discuter de tous ces systèmes foireux qu'on a en place, et où il avait notamment écrit un livre où il proposait un système où on aurait pu télécharger à volonté sur Internet avec des systèmes de comptage, de surveillance de qui téléchargeait quoi, ce qui n'était pas un problème à partir du moment où c'est pas interdit et que donc du coup on peut faire des stats et où on aurait payé une taxe et où on aurait distribué selon une clé à décider, mais en tout cas redistribuer tout l'argent collecté pour se faire une cagnotte et permettre à tout le monde d'accéder à toute la culture.
Qui existe de fait dans les radios, c'est des mécanismes un peu semblables. Oui. C'est une licence commune? Licence globale, voilà, c'est ça le terme.
C'était le terme qu'on utilisait à l'époque. Alors, il y a plein de débats là-dessus. Des tas de gens, y compris chez des artistes libristes, n'y sont pas favorables. En tout cas, Philippe Aigrin avait fait un gros travail à l'époque.
Plein d'autres nouvelles qui sont arrivées. Pas des trucs majeurs, je trouve, mais quand même, il y a des sujets qui sont passés
cet
été.
Oui, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu une grosse affaire, une affaire en tout cas qui a beaucoup fait parler, qui est Pegasus.
Pegasus, le cheval ailé.
C'est ça. Et également le logiciel de surveillance produit par une boîte israélienne. Alors, ça a beaucoup fait parler. Pour moi, c'est pas une nouvelle qui révolutionne tout, parce que c'est vraiment du logiciel qui permet d'attaquer des cibles précises qui nécessitent beaucoup de moyens. Donc c'est intéressant de savoir comment ça marche, mais en tout cas pour moi c'est pas une surprise de me dire que différents services secrets sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table pour réussir à espionner une personne en particulier.
C'est toujours bien de le savoir, moi oui. J'aime bien avoir des fuites d'informations, qu'on soit un petit peu au courant de ce qui se passe quoi.
Voilà, un autre truc moi que j'ai noté, c'est qu'il y a eu une sorte de petite campagne là où Amazon s'en est pris plein la gueule. Ce qui m'a fait plaisir.
Quoi, c'est en rapport avec le fait qu'il a été faire du tourisme spatial, c'est ça?
C'était un petit peu ça. Les gens qui ont trouvé ça pas tellement de bon goût.
C'est surtout les remerciements. Moi, j'ai trouvé de très bizarres allusions au fait que ce sont les employés et les consommateurs, les acheteurs d'Amazon qui ont contribué à son vol.
Bah oui, il est riche et il n'est pas riche par hasard. Hein, c'est que les gens achètent des trucs chez Amazon et qui fait trimer ses employés comme des misérables. Et forcément, il devient riche. Donc il y a toute une série d'affaires qui sont sorties les unes derrière les autres. La première affaire qui est sortie était un employé modèle, un type super motivé aux États-Unis, et qui s'est fait virer par SMS. Et on a découvert qu'en fait c'est non pas une IA comme on lit dans les articles, parce qu'on n'est pas à ce niveau-là, mais un système automatique qui selon une série de critères dit « Oh, il a raté sa livraison, paf paf, je le vire ». Bon, en l'occurrence, c'est arrivé trop tôt, c'était dans une résidence qui était fermée, il pouvait pas rentrer. Donc il n'était pas en tort, mais il a jamais réussi à joindre qui que ce soit, et voilà, il était juste viré. Et dans la foulée, il y a eu des enquêtes, enfin, ils ont commencé un peu à fouiller, il y a des gens qui avaient bossé sur ces systèmes-là qui ont dit « Quand on l'a développé, on savait qu'il y aurait des gens qui seraient virés pour rien, mais on a considéré que c'était moins cher de virer des gens de temps en temps plutôt que de payer des humains à faire un travail qualitatif. » Il y a d'autres affaires qui sont sorties, notamment alors qui ne sont pas liées à l'informatique, mais sur le fait que dans un entrepôt Amazon, le taux d'accident du travail est de 80% supérieur à celui de la moyenne américaine, qui montre que derrière, ils broient des humains pour de vrai. Il y a des affaires sur l'organisation des tournées, où ce sont des prestataires qui font les tournées pour livrer les colis. Mais c'est un algorithme de chez Amazon qui leur dit comment faire. Et notamment, ce qu'il fait, c'est que quand il y a plusieurs livraisons à faire dans le même quartier, il donne comme consigne d'arrêter le véhicule et d'aller livrer à pied. Sauf que ça peut se faire dans un truc où il y a une deux fois deux voies qui passent et les livreurs doivent traverser avec des bagnoles qui foncent à toute vitesse et des gros paquets dans les bras. Donc c'est super dangereux.
Et en plus, ils sont surveillés par un algorithme qui va les virer.
Parce que s'ils vont trop lentement, ils sont dégagés après. Il y a également une affaire assez fabuleuse qui est que des managers de chez Amazon ont avoué qu'ils embauchaient des gens uniquement pour les virer.
Parce qu'il y a un taux de turnover obligatoire.
C'est ça, c'est l'idéologie Amazon qui dit « bon, on a toujours X% de gens qui sont des tirs au flanc, donc on vire X% de gens ». Et donc comme ces managers doivent le faire, alors ils embauchent des gens uniquement pour les virer. Et le dernier point qui était sorti, hein, ça fait pas mal, mais moi j'aime bien taper sur Amazon, hein, c'est que aux États-Unis, toujours, des managers d'entrepôts Amazon disent qu'ils commencent à craindre d'avoir plus personne embauché, parce qu'ils crament les gens tellement vite dans les trucs, que bah, au bout de 10 ans, tout le monde y est passé, et qu'ils se disent, qui on va embaucher maintenant?
Oui, ça doit se passer au niveau des bassins d'emploi dans lesquels ils sont implantés, et dans un bassin d'emploi, il y a un potentiel de candidats qui est limité à un moment donné, et donc ils sont arrivés au bout.
C'est ça. Enfin voilà, donc c'était une belle série sur Amazon. Hein.
Apple a fait pas mal parler de soi aussi.
Alors oui, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils sont en train de se positionner comme défenseurs des données personnelles, de la vie privée. Ils prennent vraiment des positions fortes au niveau de leur image là-dessus. Oui.
Oh, c'est pas la première fois. On a souvent parlé de la cage dorée dans laquelle les consommateurs Apple étaient...
Effectivement, mais là, ils mettent vraiment l'accent dessus et avec vraiment la communication grand public. Donc c'est doublement intéressant. Alors d'une part, il y a des gens qui ont dit qu'Apple était moins pire que les autres, en disant qu'ils vendent du matériel, donc ils n'ont pas besoin d'espionner les gens. Ce qui est peut-être vrai. Après, ça reste un GAFAM sous loi américaine. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'ils aient fait le choix d'en faire un axe de communication au grand public, ce qui laisse entendre qu'ils ont estimé que le grand public commence à se soucier de ça. Donc pour moi, je trouve que rien que ça, c'est une info intéressante.
Ça les met bien en opposition à Facebook et à Google, dont le business model est basé sur la publicité et le traçage individuel.
Oui. Mais si en même temps, les clients s'en foutent, c'est pas un axe intéressant pour eux. Ils vont pas en parler. Or, ils considèrent que le public ne s'en fout pas. Donc ce qui est intéressant pour nous aussi là-dessus, et je pense qu'il va falloir affûter nos arguments quand on est dit « Non, mais Apple est là pour nous sauver ». Et de fait, ils ont pris un petit scandale.
Parce qu'ils veulent s'assurer que les contenus soient propres, surtout ceux qu'ils hébergent.
Et oui, ils ont mis en place un système de surveillance anti-pédopornographie, donc qui va, comme les autres, hein, c'est pas les premiers, mais qui va surveiller tout ce qu'il y a dans les messages, etc., dans les fichiers. Et donc, c'est un petit peu incompatible avec l'idée de bien défendre les données personnelles.
Ce ne seront pas les premiers, ce ne seront pas les derniers. C'est ProtonMail en Suisse qui se sont retrouvés face à ce genre de dilemme.
Oui, parce que la justice suisse leur a demandé des comptes et ils ont dit bah, « c'est la loi, on obéit ».
Donc, et pourtant, hein, c'est une boîte, une organisation qui propose de faire des mails libres et hyper privés, donc tout chiffré, tout bien, et ils refusent d'habitude de répondre aux demandes des institutions, mais là, en Suisse, non, ils ont répondu aux demandes des institutions suisses.
Voilà. Moi, il y a un autre truc que j'ai trouvé fabuleux et sans doute plus de long terme, mais en Australie, il y a une intelligence artificielle qui a réussi au tribunal à obtenir le statut d'inventeur. Donc, les IA, on peut brasser plein de données, ça arrive à sortir des trucs qui sont nouveaux. Et des gens ont fait des procès, c'est passé en appel ou quoi, et en mettant la grosse pression, le tribunal a dit oui, d'accord, la paternité de l'invention est attribuée à l'IA. Et ça, pour moi, ça change énormément de choses.
Alors, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on avait vu, mais sur le droit d'auteur, hein, où il y avait des photos de singes qui étaient en fait des autoportraits.
Un selfie, oui.
Et le singe, en plus, était magnifique sur la photo. Et le photographe, celui qui possédait l'appareil et qui l'avait réglé, réclamait que c'était sa photo à lui, c'était son droit d'auteur. Et non, il y a plein de gens qui ont réclamé le droit d'auteur au singe.
Oui, alors c'est un peu différent pour moi, parce que là, c'est une IA avec des gens qui l'ont créé, donc c'est même pas un être vivant. Le statut d'un singe, d'un être vivant, c'est relativement clair, je pense, dans le droit. On peut dire que c'est lui l'auteur. Là, on parle d'un système automatique qui n'a aucune conscience, et qui du coup devient auteur, sachant que dans le droit d'auteur, on est censé avoir un droit moral. Du coup, c'est quoi la moralité d'une IA? Sachant que c'est des gens qui l'ont codé, c'est des gens qui l'ont nourri. Donc, enfin, ça peut mener très très loin. En tout cas, voilà. On n'a pas le temps de s'étendre dessus, mais pour moi, c'était un truc incroyable.
Alors, sans s'étendre dessus, ça n'empêche qu'une IA, aujourd'hui, ça peut avoir une existence sous la forme d'une personne morale. Et moi, je sais que toi, tu penses que les IA ont déjà pris le contrôle et que Apple, Facebook, Google, ce sont des IA.
Non, mais là, tu fais des crossovers. C'est ma théorie du complot qui est dans ma pituite. Mais c'est pas le même univers. Mais je vais peut-être en reparler prochainement. Mais bon, voilà. Après, il y a eu des failles de sécurité dans tous les sens, avec des tas de données qui ont fuité un peu partout. Il y a eu un truc, notamment en Afghanistan, au moment où l'Afghanistan était en train de s'effondrer et où les talibans étaient en train de revenir à grande vitesse, et il y a des tas d'Afghans qui se sont précipités pour essayer d'effacer leurs traces sur Internet, parce qu'ils ont fait tout plein de choses qui ne sont pas autorisées, et qui se sont dit « faut pas que ça se voit, il faut pas qu'ils me retrouvent ».
C'est le même problème que les jeunes adolescents qui débarquent sur le marché du travail, qui se rendent compte que les tweets qu'ils avaient échangés avec leurs potes qui sont publics étaient idiots, c'est juste qu'en Afghanistan, là, tu risques ta vie.
Alors oui, c'est exactement ça. Voilà. Alors peut-être que d'ici à la semaine prochaine, on aura rétabli la peine de mort dans le milieu professionnel, mais d'ici là, je pense qu'on est un peu plus tranquille pour nos éléments compromettants sur Internet.
Bon, y a toujours une solution pour la vie privée, ça avait été recommandé par je sais plus quel dirigeant de GAFAM, c'était de changer de nom quand on devenait adulte, et comme ça, il n'y a pas de problème.
C'est ça, de toute façon, la vie privée, c'est pour les losers. Hein.
Bon, sur ce, je te dis à la semaine prochaine, et j'espère que tout va aller pour le mieux.
Salut, bonne semaine.